Je prêche pas ce matin parce que je dois prêcher. Je prêche ce matin parce que je sais que l'Esprit me dit. C'était, il y a un jour où peut-être fallait pas prêcher, ça aurait été aujourd'hui. Mais je prêche pas parce que j'ai envie dans le sens de prêcher parce qu'il faut prêcher. Mais le Seigneur m'a vraiment parlé cette nuit et tout est en accord avec ce que je vais dire, avec ce que le Seigneur a déjà fait ce matin. Alléluia. Nous saluons ceux qui nous écoutent en direct. J'espère que le son est bon. Nous sommes dans cette série Simplicité, l'église que nous voulons bâtir et que nous désirons absolument bâtir. C'est une église, et vous êtes l'église, une église qui vit les principes de Dieu de manière simple. Et je suis vraiment touché. Parce qu'à travers les différents messages, Dieu nous amène à vivre cette foi simple. Et j'aimerais vraiment... Moi, ce que je propose, Rachel, ça ne te dérange pas. Moi, ce que je propose, c'est que s'ils bougent, on les sort. Est-ce, comme ça, tu profites. Et on ne va pas partir du principe que peut-être qu'ils vont en profiter. Non, je ne sais pas, c'est une question. Donc, les enfants, si vous voulez vous amuser, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez rester dans la salle, restez dans la salle, vous êtes les bienvenus. Bon, s'ils bougent, ce n'est pas grave. Mais on laisse les enfants choisir. Moi, ça ne me dérange pas, en tout cas. C'est toujours, comment je peux dire, toujours trouver le juste milieu. On n'aime tellement pas que les enfants se sentent exclus de ce que nous vivons. Et c'est une grâce de les avoir. La Bible dit que la foi est quoi? C'est quoi la définition de la foi? Manu, toi connais tous les versets par cœur. Une ferme assurance, des choses qu'on espère, et quoi? Une démonstration. Dis à la personne à côté de toi, la foi est une démonstration. Ce qu'on a fait ce matin, c'est la démonstration. Et la foi, ce n'est pas une simple croyance. Quand on dit « agis simplement », j'aimerais vous proposer que ce matin, c'est mon but, par la grâce de Dieu, dans l'espace de 2 heures qui sont là devant moi, la foi est une démonstration. Et moi, je refuse de vivre une foi sans démonstration. Et la démonstration, c'est la démonstration de puissance, mais la démonstration aussi de nos actions, de tous les jours. Une démonstration, c'est pas juste un acte glorieux. Une démonstration, ça peut être une simple obéissance. Quand on parle d'agir simplement, je parle d'un homme et une femme qui ont mis leur foi en Jésus. Mais qu'est-ce qui déclare et qui montre qu'il y a la foi? Le mot démonstration parle de preuve en grec. Parle de quelque chose de visible. La foi est une assurance. Je parle pas une assurance. Mais je dois avoir le « et » qui démontre. Là, je suis assuré. Mais qu'est-ce qui monte en assurance? Tu peux avoir une assurance dans ta manière de t'habiller, une assurance dans ta manière de parler, mais la foi doit se démontrer. Et moi, la question qui me challenge depuis ce matin, depuis hier même, Romaric, quels sont les actes qui démontrent ta foi? Quelle est la dernière fois où, sans parler, on a regardé, on a dit, quel homme et quelle femme de foi? Jésus l'a fait, hein? Jésus a vu une veuve, il a dit « Ouh !» Jésus a vu, je crois que c'était le centenier, non pas le centenier, oui c'est le centenier, il dit « Ouh oh, !» Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. C'est-à-dire que Jésus notait la foi qui se démontrait. La foi se démontre. La foi, ce n'est pas une confession dans un livre. Nos croyances, comment on appelle ça, notre déclaration de foi. C'est bien d'avoir des déclarations de foi. C'est bien d'avoir des proclamations en une église, croyant au prophétique. On déclare des choses. On prie, on déclare. Mais ce que Dieu va regarder, c'est la démonstration. La foi se démontre. La foi agit. Et il y a quelques années, pour les plus anciens, vous allez vous souvenir, j'avais eu cette vision. Et ça m'a saisi. Dieu me montrait que j'étais à un feu vert. Un feu vert. Et je ne bougeais pas. Et parce que je ne bougeais pas, j'étais flashé. J'étais flashé au feu vert. Il faut le faire, hein. Et là, le Seigneur me dit, mais c'est ce qui se passe lorsque tu n'agis pas. Quand le feu est vert et que tu ne bouges pas, tu es en infraction. La foi se démontre par nos actes, par des actions bien concrète. Et bien souvent, nous crions et nous disons, Seigneur, agis. Et ce matin, en me préparant, j'écoutais ce chant, tu le feras encore. Et derrière, j'entendais le Saint-Esprit qui me disait, mais est-ce que toi, tu le fais encore? On aime bien se cacher derrière Dieu qui doit faire. Dieu, tu le feras encore. Dieu agit. Ton inaction inhibe la puissance de Dieu. Et on va le voir. En fait, c'est l'action, c'est mon action qui va permettre à Dieu d'agir. Et il y a une chose que Dieu nous a donné, c'est vraiment la liberté. La liberté, c'est attaché à l'homme. La liberté, c'est quelque chose que nous avons dès le départ. Et la liberté est connectée à cet esprit d'initiative. Et le pasteur Mathieu en a parlé déjà de l'initiative dimanche dernier à Brignoles. Et je veux réellement prendre conscience ce matin que Dieu me donne cette liberté pour pouvoir agir. Suivez-moi bien, vous allez voir là où je vais en venir. C'est très subtil, mais combien de chrétiens sont enchaînés, non pas par des liens de l'ennemi, mais sont enchaînés parce qu'ils n'agissent pas. Quelle est la différence entre quelqu'un de libre et quelqu'un qui est en prison? Celui qui est en prison est limité en termes d'action. Tu as envie de faire des choses, mais tu ne peux pas tout faire. Mais parfois, dans notre marche chrétienne, on attend tellement que Dieu fasse, mais en fait, on s'emprisonne nous-mêmes. On s'enferme. Et je me disais ceci, celui qui s'empêche d'agir quand Dieu n'a pas dit non, se rend prisonnier. Et bien souvent, on attend tellement que Dieu nous ouvre des portes qu'en fait, on est prisonnier de notre attente. J'aime ce texte de Juges 18, verset 9. Je passe rapidement le contexte. Juges 18, 9, vous allez le lire, le contexte. Allons, répondirent-ils, mentons contre eux, car nous avons vu le pays et voici, il est très bon. Quoi? Vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Ne soyez point paresseux. Et on a, je sais pas, l'image, moi j'avais l'image du paresseux, de quelqu'un qui dort tout le temps, qui n'a pas envie de bosser. Mais lorsqu'on regarde le mot paresseux ici, c'est pas juste cette personne-là. Le paresseux, là, dans l'étymologie même du mot hébreu, c'est celui qui est lent à s'engager à prendre une action. Celui qui est lent à passer à l'action. Quand tu es lent à passer à l'action, tu es un paresseux, tu es une paresseuse. Et tu attends tellement que Dieu fasse. Et notre version, parole de vie, ils répondirent, venez, allons attaquer les habitants de Laïch. Nous avons vu leur région, elle est excellente. Ne restez pas là sans rien faire. Dépêchez-vous de partir pour prendre possession de cette région. Quels sont les domaines où on reste là sans rien faire? On prie, on jeûne. On peut être là à prier pour des promesses. On peut être là à dire, Seigneur, je veux les voir. Moi, j'aimerais que vous me challengez. Chaque fois maintenant, sinon on envoie des prophéties ou des paroles en aparté, en privé. Parfois, on le fait. Mais dès lors que c'est public, nous tous, on est responsables. Ce n'est pas pour faire un show lorsqu'on donne des paroles publiques. C'est pour que si on donne une parole sur ma vie, vous, vous êtes témoin, vous priez pour ça, mais hey, au fait, Romaric, qu'est-ce que tu as fait de cette parole-là? Qu'est-ce que tu as mis en place? La foi se démontre. Ce n'est pas j'attends que Dieu accomplisse. Trop souvent, on a dit, Seigneur, tu as promis, tu accomplis. Non, mais quelqu'un m'a... j'avais une conversation avec quelqu'un, oh, Dieu m'a parlé sur ça, Dieu m'a parlé. Moi, j'ai dit, mais c'est simple. Commence à mettre 5 euros de côté par mois pour ce voyage. Est-ce que Dieu m'a dit de lui dire 5 euros? Ce n'est pas le problème. Quel est le pas que je fais? Quel est le mouvement que je fais? Quelle est l'action que je fais pour dire je crois réellement que ce projet est de Dieu? Et tellement de jeunes, et les églises sont remplies de jeunes qui ont reçu l'appel. L'appel à prêcher. Mais quand on leur pose la question, combien de livres tu lis sur la prédication? Ils attendent. Tu as reçu une parole pour être peut-être dans l'intercession. Est-ce que tu développes une vie de jeûne et de prière? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu t'équipes? Le miracle ne commence que quand tu sors de la barre, quand tu commences à poser un acte concret. Jamais Dieu n'est intervenu sans qu'on passe à l'action. Et on va le voir, on a créé dans nos églises des hommes et des femmes. Seigneur, Seigneur, fais quelque chose, ouvre des portes, ouvre des portes. C'est très rare qu'on freine des gens qui défoncent des portes. Aujourd'hui, presque j'aimerais que certains défoncent et qu'on les calme. En fait, je suis à la recherche de ceux qui défoncent les portes. Je vois plus des gens qui attendent et qui se disent, ça va s'ouvrir un jour. Ça va s'ouvrir un jour. C'est faux. Proverbe 24. À cause du froid, le paresseux, donc le paresseux, je vous dis, qu'il est long à se mettre en action, pas le paresseux dans notre mentalité. Le paresseux ne laboure pas à la moisson et il voudrait récolter, mais il n'y a rien. C'est quoi ton froid à toi? La peur du froid, la peur de l'inconfort, la peur de la saison. Ça ne sera pas toujours facile dans le plan de Dieu. Tueuse des géants, ben, il faut qu'il y ait des géants. Eh oui. Et non, mais Seigneur, mais ce n'est pas pour moi, j'ai peur, la peur du froid. Et ensuite, il voudrait récolter. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que tu n'as pas semé. Écoute, même si tu as reçu une promesse, c'est toi qui sèmes. Quelqu'un a oublié de dire amen. Même si tu as reçu une promesse divine, c'est pas Dieu qui sème. C'est toi qui sèmes, c'est toi qui pleures, c'est toi qui es découragé parfois. Mais il faut que tu sèmes. Faut que tu te... et ça, waouh, Dieu! Dieu est touché. Proverbe 22, 13. J'aime celui-là aussi. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Le paresseux dit, il y a des géants, vous savez, c'est pas top. La peur que ça se passe mal. La peur, en fait, que ça finisse mal. Ah, cette histoire-là, ça mal finir. Parce que j'ai vécu. La peur de ce que j'ai déjà vécu dans le passé se reprend. Il y a un lion dehors. Il y a un lion qui va... Ah, moi, le diable va m'attaquer dans ça. Non, j'ai déjà goûté. Et pendant longtemps, moi, c'est ça qui m'a enfermé. Pour ceux qui connaissent à peu près mon histoire, je ne vais pas raconter, mais pour revenir dans le ministère. Je dis, ah non, je connais déjà les coups que je vais prendre. Je ne connais pas. Tu sais, quand tu commences, tu es jeune, parfois, tu dis, ah. Mais une fois que tu as goûté, tu connais certains coups. Et là, je dis, ah non, il y a un lion dehors, je n'ai pas envie. J'ai goûté déjà. C'est une forme de paresse. Et il y en a qui sont dans cette paresse. Ils disent, ah non, j'ai déjà donné. Je serai tué. Mais c'est où la croix, là? Quand tu proclames, quand tu penses à... Qu'est-ce que Jésus a fait? La peur que ça finisse mal. Dieu ferme des portes. Le diable ferme les portes, oui. Mais nous-mêmes, nous fermons aussi des portes lorsque nous refusons d'agir. La porte qui est fermée, peut-être ce n'est pas un blocage spirituel. La porte qui est fermée, c'est pas, peut-être que ce n'est pas, comme on dit, le timing. La porte qui est fermée, c'est juste que tu n'as pas agi en fait. Que tu n'as pas commencé à agir, commencé à bouger. Et le diable, oui, il nous arrête dans notre marche, mais pas toujours en nous mettant des bâtons dans les roues, comme on dit, mais en nous rendant inertes, immobiles, attentifs, attentistes. Écoutez bien, ça c'est la vérité. Si vous oubliez tout, n'oubliez pas. C'est difficile de dire cette phrase au milieu de la prédication parce que tout ce que tu vas dire après, mais je le dis, si vous oubliez même ce que je vais, n'oubliez pas ça là. Bien souvent, rien ne se passe parce que nous ne faisons rien pour que quelque chose se passe. Moi, je vous dis, depuis ce matin, très tôt, 2h du matin, je prie, je dis, Seigneur, il faut que quelque chose se passe. Il y a des moments, Dieu ne nous en voudra pas si on provoque. Je ne parle pas d'être émotionnel, comprenez? La femme à la perte de sang a provoqué quelque chose. Elle a démontré, dit non, je peux pas. Bartimée a dit non, peux pas. Il y a des moments, j'ai cette révolte. J'ai dit, je ne dois pas aller juste en Afrique pour vivre quelque chose. Tu es le même Dieu, Seigneur. Pourquoi je ne vis pas ça? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Il y a des moments, il faut que je me bouge. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait, mais fais quelque chose. Si tu en as marre. Dieu ne t'en voudra pas parce que tu as trop fait. Si tu as trop fait, ne t'inquiète pas. Dieu est un bon père. Il va te dire peut-être calme-toi. Mais il ne va pas te briser parce que tu en as trop fait. Parce que tu as tellement hâte, tu veux tellement vivre quelque chose, tu as tellement soif. Encore une fois, j'aimerais bien que parfois que Dieu nous calme. Donc si tu ne vis rien avec Dieu, essaye de faire quelque chose. Bouge-toi. Si tu veux voir des malades guéris, si jamais tu imposes les mains, si jamais tu oses imposer les mains, si tu veux voir des gens se convertir, si jamais, c'est simple, même statistiquement, zéro témoignage, je peux donner une parole prophétique qui va s'accomplir. Zéro personne par votre bouche qui se tourne au Seigneur. Seigneur, utilise-moi. Je peux vous assurer que les témoignages de « Ah, j'ai senti le feu de ma bouche » et la bouche s'est mise à... s'est ouverte. Et moi-même, je ne contrôlais rien et la bouche parlait, récitait les versets bibliques que jamais j'ai appris, jamais j'ai ouvert ma Bible. Et là, je commençais à sortir des versets bibliques spontanément et j'ai dit « Repends-toi dans ton cœur à Jésus. » La personne s'est touchée, elle est venue au Seigneur. Ça là, ça serait dans des films, dans des Marvel chrétiens peut-être, si ça existe. Et dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais là, on est là, Seigneur, je veux vivre quelque chose avec toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je veux ton feu. Seigneur, je veux prier pour les malades. Et j'attends. Et j'attends. Il faut que tu ouvres la bouche. Il faut que tu imposes les mains. Même si tu trembles. Même si ta première, quelqu'un veut grandir dans le fait d'avoir des paroles de connaissance. Ça vous est déjà arrivé de prier comme ça? Seigneur, parle-moi. Je veux que ma... Écoutez, le plus grand des prophètes ne peut pas avoir cette présomption, en tout cas c'est une présomption de dire, je sais que Dieu m'a parlé et ce que je vais dire 100% c'est la parole de Dieu. C'est par le principe de la foi. C'est par la foi que nous prophétisons. Donc, il faudra toujours à un moment donné que tu oses aller voir quelqu'un. Tu dis, ah, je sens que ton cœur bat. Pourquoi ton cœur... Je sens, peut-être je peux me tromper, mais je sens que ton cœur bat. Pourquoi... Peut-être tu as des peurs. Je me souviens, il y a un mois, ceux qui le savent, on fait souvent des rounds pour prier. Et là, j'étais allé le matin autour de chez moi pour préparer la célébration. Et là, j'étais là comme le gars plein de foi, quoi. Seigneur, que ce matin, j'étais allé plutôt, que quelque chose se passe à la célébration. Et là, je rencontre une dame avec son chien. Et j'ai une parole et je sens dans mon esprit, et c'est clair, pour moi, c'est clair, elle a des peurs, des phobies. Et je continue, comme vous savez, moi je prie son nom. Et je continue, Karabaria Soto Koroburia, Karabaria Soto Koroburia, la cachette. Seigneur, touche-la là où elle est, touche-la, Karabasoto. J'ai marché comme ça pendant une minute trente, c'est déjà pas mal, elle était derrière. Et en plus, quand tu fais ça, tu te dis que je m'éloigne bien, comme ça je n'ai pas l'occasion de la revoir, que Dieu ne me dise pas, prie pour elle. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais tu fais du cinéma avec ton biribiribiri, machin là. Tu pries pour ce matin, pour quelque chose se passe, et là tu vois quelqu'un qui est en détresse, tu veux que je te parle, et quand je te parle, tu pries à distance comme ça, va la voir. Et moi, qui suis très cartésien, et qui aime des signes, Seigneur, si c'est toi, que je la recroise. Le Saint-Esprit m'a pas lâché, j'ai refait des mythos. Pas besoin de vous dire que ça, là, ça venait pas de Dieu, j'aurais pu attendre. Hein. Et beaucoup, on donne des trucs comme ça, ça se raconte, ah, c'est pas de Dieu. Non, tu es paresseux. Tu manques de foi, c'est pas une question de, c'est pas de Dieu. Le pire qui puisse arriver, c'est quoi? Tu te trompes? Là. Et la première parole de connaissance que j'ai reçue, Dieu a permis que je me trompe. Et je sais que c'est Dieu qui, j'avais vraiment entendu quelque chose. En plus, c'est une date, hein, 1973, je sais plus combien. Il dit, va dire, quelque chose s'est passé sur cette date. J'ai entendu. Et je dis à la personne, non, rien. Et quand la personne dit non, rien, je suis rempli du Saint-Esprit. Et là, le Seigneur dit, maintenant je sais que tu n'as pas peur de te tromper pour ne pas perdre ta face. Mais ce qui compte pour toi, c'est me plaire. Donc la question, ce n'est pas de se tromper. Comprenez ? N'allez pas prophétiser les naissances. Hein? Okay? Enfin, bref. Parfois, il y en a qui prennent toujours une partie de prédication. Vous dites, oh, Romaric a dit, bon, vous comprenez, soyons équilibrés. Mais aujourd'hui, on n'est même pas là. Aujourd'hui, je parle juste cette parole. Et donc là, je reviens sur mon histoire. Et je reviens, donc je sais que j'étais charnel et que jamais je la reverrai, que ce n'est pas parce que je la reverrai que ce n'est pas de Dieu. Je reviens sur mes pas. Et en plus, quand je reviens, je négocie encore. Seigneur, si je la revois sur mon chemin, je pourrais. Non, elle n'était pas sur mon chemin, elle était dans un autre chemin. Et le Saint-Esprit me dit, il faut que tu appelles. Et donc, je suis parti, je l'ai rappelé. Je dis, madame, voilà. En plus, oui, bah, il est quand même, je crois, 5h, 6h du matin. Je ne sais pas si elle m'avait entendu. Mon parlant langue, comme dit ma femme parfois, je ne sais pas si c'est... Bon, je me cache le fait que ce soit blague, ça passe. Et je parle dans ma langue, quoi. Tout le monde ne sait pas que je parle de la langue du ciel. Pour certains, c'est la langue d'Afrique. Donc, mais elle m'a entendu quand même parler en langue. Elle arrive. Donc je dis bonjour, madame. Et je lui explique, écoutez, je prie dans le quartier. Je prie pour vous, pour vos voisins. Je suis chrétien. Je me présente. Elle dit, par contre, tout à l'heure, quand je vous ai dit bonjour, je suis passé à côté. Et je lui dis ce que j'ai ressenti. Et là, bam, ça chiffre de l'atmosphère. Elle dit oui, c'est exactement ça. Bam. Et j'ai pu annoncer l'évangile. Et là, je me disais, Seigneur, quel religieux je suis quand même. Moi, je pouvais être à 1 km à continuer à Karabaria Korobo Shekele, alors que tu voulais que j'aie un contact avec elle. Et là, il y a un mois. Mais combien de fois on ne passe pas à l'action? On dit, Seigneur, utilise-moi dans le don spirituel. Tu reçois quelque chose, tu as une pensée, un verset. De toute façon, comme je le dis souvent, tu ne te tromperas jamais en libérant l'amour. Commence par libérer l'amour. Le plus haut niveau de prophétie, c'est libérer l'amour. Tu ressens quelque chose, libère. Peut-être pas pour le moment, peut-être pour plus tard. Donc, bien souvent, rien ne se passe parce que nous ne faisons rien pour que quelque chose se passe. Tu ne peux que te prendre à toi-même. Comment on dit ? Oh, voilà, je savais que vous allez comprendre. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Quand il y a une voyageuse qui te reprend en français, ça fait bizarre. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même si tu ne vis rien. Pour ceux qui prennent des notes, écris-le. Comme ça, la prochaine fois que tu me parles, je dis, mais qu'est-ce que tu as mis en place ? Oh, à l'église, oh, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, oh. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... Et parfois, ouais, je ne veux pas être religieux. Qu'est-ce que je veux pas être... Il y a un truc qui commence à m'agacer, moi, dans ma propre vie. Même pour prier pour le repas, tu as peur d'être religieux. Non, ça ne t'est pas arrivé, Pasteur Joël? Je dis, non, je ne vais pas trop prier devant les gens parce qu'ils vont croire que je suis religieux, il faut prier pour l'eau. Si je viens avec... Qui a sa Bible ici? Il y en a quelques-uns. Si je viens avec ma Bible, on va dire que je suis religieux. Mais c'est quoi ces pensées démoniaques, quoi? On a peur de se balader avec sa Bible, on a peur de venir à l'église avec la Bible parce qu'on a peur d'être religieux. On a peur de demander la prière. On a peur qu'on est entre chrétiens, entre frères et sœurs. On va se raconter un peu de témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ah non, mais je n'ai pas envie de gêner. Hein? Tu crois que le diable se gêne? On ne veut rien, on ne vit rien parce que on ne met rien en place. Seigneur, aide-moi. Ta volonté, rapidement, premier point, après cette brève introduction, de vérité essentielle. Ta volonté soumise à Dieu est bénie de Dieu. Ça, pour moi, Dieu, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a fracassé. Je vais expliquer. Dieu ne t'a pas créé avec une volonté juste pour que régulièrement il te contredise. Souvent, en tant que chrétien, on est en bataille entre notre volonté et la volonté de Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu, c'est pas moi, c'est pas Dieu. Pourquoi tu opposes tout le temps ta volonté à la volonté de Dieu? Pourquoi tu te dis pas que le Saint-Esprit vit en toi? Et que si c'est pas de Dieu, Dieu t'arrêtera. Dieu t'a créé avec une volonté. Et Dieu, c'est très lié, connecté, ce que je disais, au principe de liberté. En fait, la soumission est une attitude. Par principe, je suis soumis, je me soumets à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps, que je ne dois pas faire ce que j'ai envie de faire. Parce que Dieu a mis des choses en moi, des désirs en moi. Et même moi-même, j'ai des désirs. Dieu ne bénit pas uniquement sa volonté. Il bénit aussi la volonté de celui qui s'investit d'un cœur simple, d'un cœur honnête et bon. Si ton cœur est honnête et bon, ne cherche pas constamment à dire, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que... Avance. Si ce n'est pas le plan de Dieu, on va le voir, Dieu va t'arrêter. Dieu bénit ta volonté. Ce matin, je prie que tu te réconcilies avec ta volonté, avec tes désirs, avec ce que tu as envie de faire. Arrête de compliquer la vie. Dieu ne s'oppose pas constamment à toi. Dieu t'a donné une volonté pour que tu passes à l'action. Imagine que nous étions créés sans volonté. Dieu nous a créés avec une volonté pour que nous soyons volontaires. C'est simple, mais c'est vraiment ça. J'ai une volonté, j'ai envie, je fais. Je n'ai pas envie, je ne fais pas. Et moi, je bouge un peu, mais je ne suis pas tout le temps là. Oh, Seigneur, c'est quoi ton plan? Que veux-tu que je te fasse? Écoutez bien, ça c'est... Moi, ça m'a libéré. La recherche constante et exagérée de la volonté de Dieu a produit une église passive, attentiste et immobile. Tout le temps, on est là. Et dernièrement, j'en parlais avec l'équipe et mon amoureuse. Je disais, cherche-moi un verset où des gens prient pour la volonté de Dieu. Ça n'avait pas dit qu'il ne faut pas prier. Mais ce que je veux dire, l'exagération dans notre manière de faire. Trouve-moi un verset où vraiment ils sont là. Seigneur, c'est quoi ton plan? Montre-nous où est-ce qu'on doit planter. Montre-moi quelle est ma femme. Pourquoi il n'y a pas ces versets-là? Pourquoi? Et ça veut dire qu'on ne doit pas le faire. Bien sûr que c'est bon. Mais je dis juste, on a tellement mis une pression sur le fait, est-ce que c'est la volonté de Dieu, qu'en fait on ne fait plus rien et on attend que ce soit Dieu qui fasse. On veut être une église volontaire, pas résignée. Et il y a un terme qu'on emploie souvent, est-ce que c'est le bon timing? Bien sûr, le bon timing, pour moi, je le lis à la sagesse. Il y a un timing, il faut une sagesse de certaines choses. Mais trop souvent, on a lié le bon timing à ce que Dieu veut. En fait, le bon timing, c'est juste que, écoute, ta femme rentre, elle est fatiguée de la journée, c'est peut-être pas le moment de lui parler de ça, ou l'inverse. Vous avez compris, chez moi, c'est ma femme qui rentre. Vous comprenez? Il y a un timing pour parler de certaines choses. Mais je vais pas dire, ah, c'est le bon. Dieu m'a dit, c'est le timing pour qu'on ait une discussion. Non, c'est, tu es sage. Donc, il y a une sagesse qu'on doit développer par la grâce de Dieu pour faire certaines choses ou ne pas les faire. Mais arrêtons d'attendre le bon timing de Dieu. Et je vais le prouver bibliquement. Et on a tellement d'excuses. Non, c'est pas le timing. Qui t'a dit que c'est pas le timing? Peut-être toi. Ok, c'est sage. Mais arrêtons de dire à Dieu, c'est pas le timing de Dieu. Non, Dieu ne t'a rien dit. Dieu t'a donné une volonté, Dieu t'a donné une intelligence. Comprenez? Soyons simples. Acte 16. C'est un passage clé. Acte 16, à partir du verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. C'est puissant ça. Hein? Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. Et regardez, tout est connecté. Tout est connecté. Pourquoi? La suite. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Une vision, une révélation pour quatre verbes d'action. Il n'y a pas eu quatre visions là. Ils traversèrent, on ne nous a pas dit qu'ils ont reçu une parole. Ils traversèrent. Ils se disposaient, parce qu'ils avaient une volonté, à faire. Mais l'Esprit ne leur permit pas. Un coup, l'Esprit a empêché. Ils descendirent, ils font quelque chose, et ensuite, il y a une vision. Et quand on agit comme ça, l'Église croit. L'Église ne croit pas, et écoute-moi bien, ta vie ne va pas grandir, parce que tu attends constamment à faire la volonté de Dieu. Ta vie va grandir parce que tu te mets en mouvement et que Dieu te dirige. C'est ça qui est puissant dans ce passage. La foi et la croissance sont liées à un peuple en action. L'Église avance par la foi et ensuite Dieu précise. Et je dirais même que la recherche constante de la volonté de Dieu peut cacher un manque réel de foi. Parce que parfois Dieu t'a déjà dit, Dieu t'a donné, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Bouge. Avance. Fais un pas. Si ce n'est pas ta volonté, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le Saint-Esprit empêché. Et moi, j'aime bien ces termes parce qu'il ne nous a pas dit le Saint-Esprit a confirmé. Il nous a dit le Saint-Esprit a empêché et à un moment donné, le Saint-Esprit a résisté. Mais le problème avec nous, c'est que nous voulons que le Saint-Esprit dise clairement. Mais est-ce qu'on a compris que être empêché par le Saint-Esprit, c'est une direction? Et être résisté par le Saint-Esprit, ce n'est pas un échec. Et très rare, il n'est pas dit, ils entendirent le Saint-Esprit leur dire, ah, va dans cette... Non, c'est la vision est venue bien après savoir essayer des choses. Des hommes spirituels, hein, c'est des apôtres. Hein. Quand Jésus envoyait les apôtres deux par deux aller dans les villages, il n'a pas dit, allez, des directions précises. C'est dans le mouvement. Ils ont vécu puissance, gloire, parce qu'ils ont juste fait la parole de Dieu. Si tu vois un malade, Seigneur, c'est ton plan que je prie. Ah, tu vas commencer à aller confronter des démons peut-être, je sais pas. Et encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et nous, parfois, on a tellement des protocoles et les gens sont sclérosés avec nos protocoles. Ils disent, ouais, j'ai le mandat, j'ai pas le mandat. On chasse plus les démons. Simple. Il y a un démon. Et je me rappelle une fois, dans mes premières années de formation, on parlait de quelque chose avec mon maître de stage. Il dit, j'ai compris une chose. S'il y a un démon, ben je chasse. OK. C'est simple que ça. Parfois, on se pose tellement de questions. Ayant été empêché. Donc, ta volonté est bénie de Dieu. Deuxième point, je termine avec ce deuxième point. Dieu dirige celui qui avance. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Nous croyons à tort que Dieu ne nous dirige uniquement en nous montrant clairement ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il faut faire. En fait, la volonté spécifique de Dieu est aussi révélée lorsqu'il nous empêche d'emprunter quelque chose. C'est une direction de Dieu. Donc, en fait, donne l'opportunité à Dieu et au Saint-Esprit de te résister. Pas parce que tu manques de foi, mais parce que tu t'es mis en action. Donne l'opportunité au Saint-Esprit de t'empêcher de faire n'importe quoi. Mais nous, on a inversé. On a tellement peur de faire n'importe quoi, on ne fait rien. Et vous savez, c'est tellement un esprit que celui qui bouge un peu, qui fait des choses, ben, il est pointé du doigt. C'est celui qui a un problème, en fait. Et celui qui va faire des erreurs, Eh ben nous, peut-être, on le dit souvent, mais il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreurs. Et mais dans notre marche spirituelle, on a inversé. On admire ceux qui font rien. Et on méprise ceux qui font des erreurs. Mais c'est archi faux, c'est démoniaque. J'ai reçu une parole d'encouragement. Tout à l'heure, on m'a dit, par contre, je ne crie pas trop. Bon, c'est le moment d'appliquer ce conseil. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce qu'on peut être juste simple? Et même dans nos rapports les uns des autres. Imaginons une église où on dit, ah, j'ai essayé de faire ça, ah, j'ai loupé, je fais n'importe quoi. Ah, ok, ben, tu as appris, merci Seigneur pour cet apprentissage. Tu as bougé, tu as mis en marche, tu croyais que c'était ça. Je vous assure, une telle personne, c'est sûr que Dieu va la bénir. Il y aura des percées. Les percées ne sont pas réservées à ceux qui ne font rien. Les percées sont réservées à ceux qui se loupent, mais qui persévère et qui perce. Alors, n'aie pas peur. Et je prie que Dieu nous donne cette grâce, et en fait, cette vision spirituelle des uns des autres. Je dis, ok, oh, gloire à Dieu. Quelqu'un va faire une activité, ceci, ça ne marche pas. Une autre activité, ça ne marche pas. On va dire, oh, ben, frère, pas d'onction, pas de présence de Dieu. Toi, tu n'as rien fait de l'année. Pourquoi tu ne célèbres pas celui qui s'est bougé? Célébrons-nous les uns les autres. Pas parce qu'on est des merveilleux, mais parce qu'on passe à l'action. Et celui qui passe à l'action, c'est un Jedi dans l'esprit. Et celui qui ne passe pas à l'action, ben, attendra la récolte pendant longtemps. Et laissant la possibilité. Quand Dieu dit non, ce n'est pas un échec. Quand Dieu dit non, ce n'est pas un échec. Vous lirez, c'est affiché, je ne vous le lis pas, mais 2 Samuel 7, de 1 à 13, vous lirez. C'est l'histoire du roi David qui fait venir le prophète Nathan. Et lui dit, je veux construire la maison de Dieu. Le prophète Nathan dit, vas-y, Dieu est avec toi. Waouh, le prophète, Dieu est avec toi. Le prophète repart, prie, Dieu lui dit, non. Ce n'est pas David qui va prêcher et qui va construire le temple, c'est son fils. Pourquoi? Comment le prophète a pu dire, est-ce qu'il s'est trompé? En fait, pour Nathan, c'était clair. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et si ce n'est pas de Dieu, Dieu va t'empêcher. C'est aussi simple que ça. Agis simplement. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on aille de l'avant. Et je termine avec ça, et ça, c'est une parole prophétique que je vous soumets pour quelqu'un. Et en fait, je voulais commencer avec ça. Pendant que je préparais ce message, j'entendais clairement, jette le filet. Jette le filet. Vous vous comprenez? Pierre, il dit à Jésus, Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. La nuit, écoutez bien, la nuit, c'était le meilleur moment d'attraper les poissons. Pour les pêcheurs, vous le savez. Mais Jésus va demander à Pierre, écoute, même si dans le meilleur moment, tu n'as rien pris, dans les pires moments, parce que tu vas encore essayer, parce que tu vas te mettre en action, tu peux attraper les meilleurs. Jésus a attendu le pire moment pour lui demander une action. Et Seigneur m'a montré que certains, vous êtes dans le pire moment. Dans le meilleur moment, vous n'avez pas eu de fruits peut-être. Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Jette le filet. La Bible nous dit que même quand Jésus est arrivé, ils étaient déjà en train de laver le filet. Vous savez pourquoi ils lavaient le filet? Parce que c'est, ben, pour les pêcheurs, vous savez, c'était fini, ben, on lave les filets, on prépare la prochaine pêche. Ils ont déjà lavé les filets, Jésus dit, vous reprenez le filet que vous avez lavé pour le jeter encore. Oh, donc ça veut dire quoi? Qu'on va jeter, bon, s'il n'y a rien, on va encore relaver. Certains, vous avez lavé déjà vos filets. Ce n'était pas mauvais de les laver. C'est ton exploit. Deux fois. J'ai lavé les filets. Je ne veux plus faire confiance. Je ne veux plus m'investir. Je ne veux plus agir. Et c'est la peur qui domine. C'est la peur qui domine. Et je prie, je décrète que peu importe ce que Dieu te demande, peu importe ce que Dieu te demande, peu importe ce que tu as vécu, jette le filet. Et vous savez, c'est toujours une décision. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pendant nos 5 ans? On va fêter nos 6 ans bientôt. En fait, le calendrier, on l'a déjà fêté. Mais on va fêter nos 6 ans fin novembre. Il y a des choses qui ont marché, d'autres choses qui n'ont pas marché. D'autres choses où on a jeté le filet. Rien ne s'est passé. Et Dieu, parfois, me dit, Romaric, est-ce que tu es prêt à jeter encore le filet? Seigneur, j'ai lavé le filet, j'ai rangé. Je vois quelqu'un qui a rangé sa Bible. Tu as fermé ta Bible parce que Dieu t'a appelé à prêcher, mais en fait, ce n'est pas que tu ne l'as lu plus. Mais c'est parce que tu refuses, tu as refermé l'appel. Et Dieu te dit, jette le filet. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, je suis déjà allé voir. On m'a dit non, je n'avais pas l'appel. J'ai déjà fait ça, mais rien ne s'est passé. Jette le filet. J'ai déjà essayé dans telle activité, je n'ai pas vu le fruit. J'ai arrêté. C'était sage d'arrêter à ce moment-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de jeter à nouveau le filet? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de dire je vais à nouveau faire confiance? Jette le filet. Dernièrement, Dieu m'a mis à cœur d'écrire à un chrétien qui j'avais fait des pas et des pas plusieurs fois pour renouer la relation. J'ai eu une fin de non-recevoir. Le message, il y a 3-4 ans, disait, on se verra au ciel. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Et dernièrement, suite à des obsèques, je rencontre ce chrétien, je repars à la maison. Moi, je suis convaincu que j'ai tout fait pour sauver la relation. Et le Saint-Esprit lui dit, mais tant que je te dirai de recommencer, tu recommenceras. Ce n'est pas toi qui fixe. Et si tu aimes suffisamment cette personne, renvoie encore un message. Jette le filet. Et parfois dans ce domaine relationnel, même quand tu as tout fait, le Saint-Esprit peut te dire, jette le filet. J'ai jeté le filet, j'ai rien pris encore. La question, ce n'est pas, est-ce que j'ai pris, est-ce que j'ai raison? La question, c'est, à qui nous voulons plaire? Et est-ce que je veux vivre quelque chose? Pour que quelque chose se passe, il faut que tu fasses quelque chose. Que tu fasses encore quelque chose. On aime bien dire, Seigneur, recommence à zéro. Vous connaissez, on chante plein de choses comme ça. Il peut tout recommencer. Mais toi, tu peux tout recommencer? Est-ce que toi, tu peux refaire confiance? Est-ce que toi, tu peux faire table rase? J'ai bien aimé ma charmante épouse. Vous pouvez l'honorer, l'acclamer par la foi. Céline dit, non, samedi matin, elle me dit, il faut qu'on se présente devant Dieu dans notre 20 ans de prière, on priait pour l'équipe, priait pour vous. Elle dit, je sens qu'on doit se présenter devant Dieu. On a commis des erreurs, on a commis des maladresses, on a eu des victoires. Mais on doit se présenter devant Dieu et faire table rase. Et j'ai bien aimé ça. Et on s'est mis devant Dieu, à genoux, nous deux, dans notre salon. Seigneur, table rase. Table rase, on veut recommencer avec toi. On veut une nouvelle passion pour ton œuvre. On veut te refaire confiance. Et on veut refaire confiance. Jette le filet devant Dieu. Mais jette le filet à quelqu'un. C'est facile de dire, je te fais confiance à Dieu quand tu refuses de refaire confiance à d'autres. Jette le filet. Jette le filet. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et juste finir avec ce chant? Pendant ce chant, je vous demande juste de vous poser cette question. Où est-ce que Dieu m'attend que j'agisse? Où est-ce que Dieu attend que je jette le filet? Où est-ce que Dieu attend? Peut-être je suis esclave de mes peurs. Je suis esclave de mon péché. Esclave de ce que j'ai vécu. C'est pas, et ça c'est très fort ce matin. J'espère que vous me comprenez. On a tout à l'heure, on a prié pour contre l'oppression. On a chassé des démons. On a prié pour les malades. Mais en ce moment même, ce qui est très fort, ce n'est pas l'ennemi. C'est notre système de pensée. Bien sûr, les diables utilisent. C'est notre passé, c'est nos peurs. La peur d'échouer, la peur de faire... si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire? La peur de refaire confiance, la peur d'être blessé à nouveau, la peur de me tromper, la peur qu'on me pointe du doigt, la peur qu'on me déçoit, la peur. Et tu es emprisonné, tu ne fais rien. Et tu attends, Seigneur, fais. Arrête de prier pour la guérison. Agis comme si tu t'es guéri. Je le redis, arrête de prier pour la guérison. Quand Dieu dit au paralytique, lève-toi et marche, il ne dit pas d'abord, je veux voir d'abord que ça soit guéri. C'est dans le mouvement que la guérison se prend place. Et je dis que c'est dans le mouvement que tu seras guéri. Arrête d'attendre que Dieu fasse. Commence à faire. Si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi, la Bible déclare. Alors nous jetons au loin toute forme de peur. Et pendant ce chant, ceux qui ont préparé une offrande, venez semer en connectant l'offrande. À ce moment d'appel, dis Seigneur, je veux agir. Et comme un autel, comme un sacrifice, je veux semer aussi. Et sceller mon engagement. Et ne quittez pas ce lieu sans dire à quelqu'un, voilà de manière concrète ce que je veux faire. Aide-moi, je veux que tu veilles sur ma vie. Je veux être du concret. Je veux du concret. Dieu m'a mis à cœur ce projet. Je veux commencer à le faire. Et aide-moi. Aide-moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu agit. Un enfant de Dieu se sert. Comme le fils qui croyait, qui attendait. Le père va lui dire, mais ce qui est à moi est à toi. Fallait te servir. Approchez-vous pour les offrandes, ceux qui le veulent. Et sinon, priez là où vous êtes. Prenez des engagements sérieux devant Dieu.